Psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent. Rien de plus et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants, car ils sont exempts de souffrance jusqu'à leur mort. Ils ont santé et embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi s'en est-il d'arrogance comme on porte un collier, et la violence est leur parure. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment, et sur un ton hautain, menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langue sévit sur la terre. Aussi, le peuple les suit-il, buvant à long trait leurs paroles, tout en disant « Dieu ? Que sait-il ? Qui est là-haut ? Comment connaîtrait-il ? » Voilà comment sont les méchants, toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Si je disais « Parlons comme eux », alors je trahirais tes fils. Je me suis mis à réfléchir, j'ai cherché à comprendre, je trouvais ça cela bien trop injuste. Jusqu'au jour où je suis entré dans le temple de Dieu et où j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant. Tu les entraînes vers la ruine, et soudain, c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus, ils sont détruits, et l'épouvante les saisit. Comme les images du rêve s'évanouissent après le réveil, ô Éternel, quand tu interviendras, tu les feras tous disparaître. Oui, quand j'avais le cœur amer, et tant que je me tourmentais, j'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Mais je suis toujours avec toi et tu m'as saisi la main droite. Selon ton plan, tu me conduis. Puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et ici-bas, que désirer car je suis avec toi? Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon seul refuge, et je raconterai ses œuvres. Mon message va s'organiser en deux grandes parties. Elles vont globalement suivre l'ordre du psaume. Donc, première partie, du début jusqu'au verset 18, pour évoquer le fait que notre faiblesse est connue de Dieu. Une seconde partie à partir du verset 19, donc, et jusqu'à la fin, pour voir que notre compréhension du Seigneur est une source de sujet de reconnaissance. Ce psaume est une prière. Dans ce psaume, Asaph parle de Dieu. Alors, Asaph, peut-être que vous ne le connaissez pas trop. Asaph, c'est l'auteur du troisième livre des psaumes. C'est un contemporain de David, c'est un lévite qui est chanteur, qui est musicien dans le temple de l'Éternel. Résumé en une seule phrase, Asaph dit à l'Éternel « J'étais jaloux des méchants qui ont la vie facile, mais j'ai compris que mon bonheur est maintenant et pour toujours avec le Seigneur. » Je ne sais pas s'ils avaient éprouvé la même chose que moi à la lecture, mais la première partie du psaume d'Asaph, c'est-à-dire jusqu'au verset 16-17, m'étonne. Autant la seconde partie est classique pour un psaume en se concentrant sur la gloire et sur la justice de Dieu. Autant la première partie est une explication du fait qu'être méchant et injuste, c'est quand même super. Asaph dit qu'il est jaloux des arrogants et des gens méchants. Qu'il était jaloux. Trouvez-vous normal de parler ainsi à l'Éternel ? C'est déjà mal d'être jaloux. Alors être jaloux des gens méchants, de ceux qui font ce qui déplaît à Dieu, c'est pire. Comment Asaph ose-t-il s'adresser à Dieu pour dire ça? Dans vos prières, est-ce que ça vous arrive de parler comme ça au Seigneur? » Le portrait qu'Asaph dépeint des injustes donne presque envie d'être méchant. Ils sont prospères, verset 3, ils sont exempts de souffrance, verset 4, ils ne subissent pas les maux, verset 5, ils sont en pleine forme, verset 7, le peuple boit leurs paroles, au verset 11, ils sont tranquilles, au verset 12, et finalement, ils sont riches, au verset 13. Édouard Baer, jouant un scribe égyptien dans un film avec des Gaulois, a dit « Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. » Du point de vue d'Asaph, être méchant, c'est plutôt et clairement une bonne situation. Et il dit même en avoir été jaloux. Alors, l'axe de réflexion que nous allons avoir sur ce psaume va vous demander d'être un peu actif. Nous ne ferons pas une étude de texte classique. Je pense que ce psaume, pour qu'il vienne renouveler notre manière de prier, il faut faire fonctionner notre imagination. Il faut nous mettre en situation. Mettons-nous à la place d'Asaph. Nous sommes probablement seuls et nous souhaitons parler à Dieu. C'est bon ? Vous y êtes ? Je relis les 12 premiers versets. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent. Rien de plus et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la tranquillité des gens méchants, car ils sont exempts de tourments, jusqu'à leur mort, et ont de l'embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi, s'ornent-ils d'arrogance comme on porte un collier. Ils s'enveloppent de violence comme d'un vêtement. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment et sur un ton hautain menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langue sévit sur la terre. Aussi le peuple les suit-il, buvant à long trait leurs paroles, tout en disant « Dieu, que sait-il ? Celui qui est là-haut, comment connaît-il quelque chose ?» Voilà comment sont les méchants, toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur au fond de moi et que j'ai lavé mes mains pour les conserver innocentes. En s'imaginant le moment où Asaph s'est adressé à Dieu avec ces mots, il y a une tension qui grandit à la lecture du psaume. Le point culminant de ce malaise est atteint quand Asaph avoue « C'est donc en vain, je suis resté pur. » Comment Asaph peut-il s'adresser au Seigneur ainsi, lui dire combien les méchants réussissent et que ça ne lui apporte rien de rester juste ? Pourquoi dit-il tout ça ? Je crois que Asaph a, d'une part, une bonne compréhension de qui est Dieu, et d'autre part, une bonne relation avec ce dernier. Au verset 3, il dit « J'étais jaloux ». C'est sous-entendu qu'il ne l'est plus. Et nous verrons ce point un peu plus tard. C'est aussi un aveu au Seigneur. Le Seigneur connaît toutes choses. Asaph a conscience que Dieu sait déjà qu'il est jaloux, qu'il a été jaloux, qu'il a éprouvé, en tout cas, ce sentiment. Le Seigneur sait aussi pourquoi et de quoi Asaph était jaloux. Mais alors, pourquoi user d'autant de superlatifs, rentrer autant dans les détails pour décrire la bonne situation des méchants ? Et si reconnaître ses torts et ses faiblesses était la base d'une relation de confiance ? Et si reconnaître ses torts et ses faiblesses était la base d'une relation de confiance ? Prenons un petit exemple pour illustrer ça. La relation parent-enfant est un parallèle qui me plaît bien pour illustrer notre relation avec le Seigneur. Donc, admettons que je rentre dans la chambre de mes enfants et que je trouve ma fille un crayon rouge dans la main et une grosse trace de crayon rouge sur le mur. Là, je lui pose la question. Qu'est-ce que tu as fait ? Évidemment, je connais la réponse. L'association des deux constatations est plutôt simple. Pourquoi est-ce que je lui pose la question ? Qu'est-ce que j'attends d'elle ? En m'avouant un peu toute penaude qu'elle a écrit sur le mur, je saurais qu'elle a compris que c'est une bêtise. Ainsi, à partir de là, nous allons pouvoir nous expliquer et travailler ensemble à ce que ça ne se reproduise plus. De son côté, Asaph, c'est un peu plus complexe qu'un crayon rouge, mais vient expliquer à l'Éternel qu'il a éprouvé de mauvais sentiments, mais qu'il a pu mettre le doigt sur ce qui le rendait jaloux. Il y a une forme de confiance et d'intimité avec Dieu dans ce récit détaillé des causes de sa jalousie. À la toute fin de sa plainte, il va dire à Dieu que malgré sa jalousie, malgré la tentation d'avoir une vie facile comme les autres, il est resté pur et innocent car il a suivi les recommandations de l'Éternel. Ces quelques mots viennent donner du sens à ce qu'il disait au début. Pourtant, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent, un rien de plus et je tombais. Les versets 16 à 18 marquent ici un tournant dans la prière d'Asaph. Je me suis mis à réfléchir pour tenter de comprendre. Cela était pour moi un sujet de tourment jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai réfléchi au sort qui les attend, car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine. Asaph a réfléchi et il a compris que la méchanceté et l'injustice ne resteront pas impunies. Et ça, il va aussi le dire en prière à l'Éternel. La première partie de sa prière est structurée de la manière suivante. Vous avez les versets 2, 16 et 18 qui viennent encadrer l'argumentaire en faveur de la vie facile des injustes. Asaph était jaloux et il explique cela dans le détail à l'Éternel. À la suite de ça, changement de décor, la jalousie est terminée, il a compris que le sort des injustes n'est pas à envier. Il y a, je pense, trois choses que nous pouvons noter sur ce qu'Asaph s'autorise à dire au Seigneur. La première chose, nous l'avons vu, c'est que reconnaître ses faiblesses est la base d'une relation de confiance. Ça correspond à la description argumentée de la vie facile des méchants. La deuxième chose, c'est qu'il n'est pas honteux d'avouer qu'être juste est difficile en tant qu'homme. Ce n'est pas honteux. Je crois que Dieu peut entendre et comprendre qu'être juste, c'est difficile. Asaph le dit dans les versets 2, 16, 17, 18, en avouant, il s'en est fallu de peu. Et c'est en vain que je suis resté juste. La troisième chose, et c'est la corollaire de la deuxième, c'est que nous pouvons nous réjouir dans nos prières des réussites à rester juste malgré tout. Dieu nous connaît en tant qu'homme. Il sait que l'homme est naturellement pécheur. Il a lui-même été homme en la personne de Jésus-Christ. Ce même Jésus a été tenté pendant 40 jours. Dieu n'est pas perché dans une tour d'ivoire à imposer des règles à son peuple sans comprendre la difficulté qu'il a à les respecter. Il n'y a donc pas de raison que dans nos prières, nous ne soyons pas autorisés à lui dire que, franchement, rester sans péché dans une société injuste et égoïste, c'est difficile. De plus, il ne faut pas oublier que la victoire sur le péché n'est pas une chose banale. C'est avant tout une victoire. Si cette victoire était facile et accessible à tous, Jésus-Christ ne serait pas mort sur une croix. Que ce soit la victoire de Jésus sur le péché ou nos, entre guillemets, petites victoires sur le péché, il y a matière à s'en réjouir et à le partager dans nos prières à l'Éternel. Il me semble que se réjouir de nos victoires n'est pas si naturel de ça que ça. Ça l'est encore moins en prière. Pour illustrer ça, lisez la presse sportive après un match entre un club amateur et un club pro. Si l'équipe pro gagne, bon, c'est normal. Si l'équipe amateur gagne, c'est extraordinaire. Nous sommes des amateurs dans le combat contre le péché. Dans la prière, il faut savoir se réjouir des victoires, même petites, contre le péché. Avant de passer à la seconde partie du message, rappelons-nous d'être honnêtes avec l'Éternel dans nos prières. Il n'y a rien que nous ne puissions pas lui dire. Il n'y a pas de raison de minimiser notre difficulté à vaincre le péché et notre joie de lui résister. Nous nous sommes arrêtés au verset 18, mais la prière d'Asaph se poursuit. Regardons tous les sujets de joie et de louange qu'Asaph prie à l'Éternel. À partir du verset 19 et jusqu'à la fin de sa prière, Asaph parle de deux choses. Il reconnaît le sort qui attend les injustes. Verset 20, « Seigneur, quand tu interviendras, tu feras de bien peu de cas. » Et il enchaîne ensuite sur le bonheur d'être avec Dieu, au verset 25, « Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et que désirer d'autre sur cette terre, car je suis avec toi? » On peut voir une forme de progression dans sa prière. Il prie le Seigneur de sorte de le remercier de ce qu'il a déjà acquis. Il a acquis l'assurance de ne pas être traité comme le méchant quand le Seigneur agira. Il a acquis d'être auprès de Dieu. Il considère ça comme le plus précieux en dépassant toute chose terrestre. Si on repense à toutes les choses qu'il enviait dans sa première partie du psaume, elles ne valent plus grand-chose face à ce qu'il reconnaît avoir déjà à la fin du psaume. Ce qui est à mon sens particulièrement notable dans cette prière, c'est que l'auteur ne demande rien à Dieu, mais qu'il reconnaît avoir tout ce qu'il lui faut. N'avions-nous pas lu toute la souffrance qu'il avait de ne pas avoir tout ce que les méchants ont facilement ? Il est étonnant qu'après sa prière, où il lise tout ce qu'il aimerait avoir comme l'ont les injustes, il ne demande rien. En cela, c'est une prière de louange à l'Éternel. Il ne demande ni récompense d'avoir tenu bon devant le péché, ni d'échapper à l'épreuve de celui-ci. Il reconnaît sa relation privilégiée avec l'Éternel ainsi que la justice de Dieu. À mon avis, l'écueil qu'il faut éviter, c'est d'en conclure. Voilà donc la bonne manière de prier. Il ne faut pas demander, mais seulement reconnaître ce que l'on a déjà. Ça, non. Ce serait malhonnête de ma part d'en arriver à une conclusion sans étudier l'ensemble des textes du sujet. Et il y en a. Pour en citer quelques-uns, psaume 37, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Matthieu 21, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Jean 15, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Ces paroles sont vraies. Mais en ce qui concerne notre psaume 73, je vous propose de retenir l'idée qu'une prière où on ne demande rien, c'est aussi une bonne prière. Cette prière d'Asaph devrait nous donner des idées pour prier différemment. En fait, dans cette prière, l'auteur reconnaît ce qu'il a déjà et que cela est suffisant. La prochaine fois que nous voulons demander quelque chose au Seigneur, pourquoi ne pas commencer en examinant ce que nous avons déjà acquis par sa grâce ? N'y a-t-il pas un exercice de maturité spirituelle dans le fait de reconnaître ce que nous avons avant d'en demander plus ? Les besoins d'Asaph exprimés dans ce psaume sont dans le thème de la sécurité, de la tranquillité, de la justice. Les thèmes de nos prières sont parfois plus variés que ça. Quand nous prions pour nous-mêmes, nous prions aussi pour nos projets, pour nos problématiques de santé, pour des choix difficiles à faire, pour la fatigue, le repos, etc. Même avec un vaste éventail de sujets de prière, le contenu même de nos prières est monotone. Il peut tourner en rond. Les mêmes problèmes qui n'avancent pas, la même demande réitérée. Et c'est une bonne chose de la réitérer. Mais la prière de louange, de reconnaissance, peut être une solution contre la monotonie, tout en maintenant un effort de persévérance à prier le Seigneur. En synthèse, que pouvons-nous donc retenir de ce psaume ? Tout d'abord, il me semble que nous sommes invités à être libres dans nos prières. Évitons d'aseptiser nos prières de ce que nous ne jugeons pas digne de dire à l'Éternel. Il est déjà au courant de toute notre vie, de toutes nos pensées, avant que nous commencions à prier. Dans cette même idée de la prière libérée, rappelons-nous que d'un côté, il n'est pas honteux d'avouer qu'être juste est difficile, et de l'autre côté, il n'est pas interdit de se réjouir des victoires contre le péché. Et finalement, nous sommes encouragés à revoir notre manière de prier pour faire de la place à la prière de reconnaissance et de louange à Dieu. Voilà. À la manière d'Azaph, je vous propose de prier ensemble. Père, merci pour la parole et pour le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre ce que tu souhaites nous dire. Tu nous demandes d'être des adorateurs par la foi et il est difficile de comprendre la manière et le temps avec lesquels tu fais les choses en notre faveur. Toutefois, combien de fois n'avons-nous pas compris après coup que tu avais préparé toutes choses ? Aussi, nous reconnaissons qu'en Jésus-Christ, nous avons acquis une relation si simple que nous pouvons t'appeler Père. Dans notre quotidien, tes promesses sont pour nous plus précieuses que toute sagesse des hommes. Que toute la gloire te revienne.